Mais bon, ça ne marche pas tellement bien. Alors, dans le verset numéro 4, toujours du chapitre 31, « Vemasru me alfe Israël, elef lamate, shnemasar elef, shnemasar alef, pardon, chalutze tzaba. » Donc, mobilisation de toutes les tribus, a priori. Et Rashi dit que ça sent... Enfin, Rashi dit qu'il s'agit de vraiment toutes les tribus. Et toutes les tribus, ça veut dire y compris la tribu de Lévi. Mais le Gaon, il n'est pas d'accord. Et regardez le Rashi, en fait... Rashi dit le chol matot Israël, le rabot shevet Lévi, pour inclure la tribu de Lévi. Il semble qu'il cite ici un sifri. Mais le Gaon dit que non. Il dit qu'il ne faut pas lire le hotsi. Mais pardon, il faut lire l'Otsi Shevet Lévi au lieu de l'Avi, pour exclure la tribu de Lévi plutôt que d'inclure la tribu, dit le Gaon. Dans le sifri que Rashi cite un sifri, donc. Parce que Rabbi Ishmael, dans le sifri, il dit que chaque tribu avait donc envoyé 2000 hommes, donc ça fait en tout 24 000. Alors que Rabbi Akiva dit qu'il n'y avait que 12 000 hommes. Alors, c'est une petite armée, c'est pas beaucoup de monde. Mais Ramban dit que les Bnei Israël étaient si peu nombreux parce qu'on avait éliminé tous ceux qui s'étaient rendus suspects lorsqu'il y a eu, bon, qui se sont effectivement, éventuellement, laissés aller avec les filles de Moab. Donc c'est les tzadikim qu'on a envoyés à faire la guerre. Mais Rabbi Ishmael pensait que la Shrina, elle ne peut pas se déplacer avec le clan Israël si on n'a pas au moins 22 000 hommes. Et 22 000, vous savez bien, c'est les fameux Rivot Alfei Israël qu'il y a dans le... Vous souvenez ce fameux pasuk, ces fameux psukim de psukim qu'on lit quand on sort la Torah, ça rentre, entre les deux nouns à l'envers, où on parle là-bas de Rivevot Alfei Israël. Rivevot, c'est le pluriel de Revava qui veut dire myriade, donc 10 000. Donc ça fait au moins 2 000, au moins 20 000. Et Alfei, c'est au moins 2 000. Donc c'est 22 000. On dit que c'est le minimum du clan Israël. Le clan Israël ne peut pas descendre et être appelé clan Israël s'il n'y a pas au moins 22 000 personnes. Donc le Rabbi Ishmael, il pensait qu'il fallait avoir au moins 22 000. Et c'est pour ça que il a choisi 24, parce que ça en plus ça correspond au nombre de victimes dans l'affaire de la débauche. Rabbi Akiva qui dit 12 000, lui pense qu'on comptait les tribus d'Ephraïm et de Manaché comme une seule tribu, la tribu de Yosef. Il pensait, comme le Targum de Yonatan, que seuls les Urim et Thummim était allé au combat, donc il n'y en avait pas là, on n'avait pas l'arche, on n'avait pas donc l'Aron HaKodesh, et donc s'il n'y a pas l'Aron HaKodesh, on n'a pas besoin de ces 22 000. Avec les Urim et Thummim, on n'a pas cette exigence d'être suffisamment nombreux, donc ça ne le dérange pas, et que, en fait, d'après cela, d'après Rabbi Akiva, il n'y a qu'une seule fois où le Aaron HaKodesh est allé en guerre, si on peut parler, c'est au temps de Kohen Gadol Eli, celui qui a précédé Shmuel. Alors, on dit qu'on a... Pourquoi est-ce que le Pasuk dit, dans le Pasuk 5, on dit « Veimasru me'alfe Israël, elef למטה 12 אלף חלוצי צבא. Là, on dit, tout à coup, on a recruté les hommes, et en fait, quand les gens ont entendu que ça voulait, que c'était la dernière chose avant la tirade de Moshe, ils n'ont pas voulu y aller. On n'y va pas. On ne fait pas la guerre. Si on ne fait pas la guerre, Moshe ne va pas pouvoir mourir. Et c'est pour ça qu'on veut dire qu'on les a. Les Masrous, c'est là où on les a contraints. Bon, alors ça, c'est une marloquette, en fait, entre Rashi, qui dit qu'on les a contraints, et les autres, Ravanel, Radak, le Balatourim, qui disent que puisque c'était les Tzadikim, ils sont allés volontairement, là, on leur a dit d'aller. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire aussi venger? Est-ce que il semble que Moshe Rabbeinu pensait que ce serait une guerre comme celle qui nous est demandée contre Amalek ou contre les sept peuples, etc., où on demande d'éliminer complètement, c'est-à-dire d'éliminer ce peuple en fait. Et du coup, quand Moshe Rabbeinu a vu, quand on va le voir par la suite, il a vu que, en fait, ils ont épargné les femmes, les enfants et le bétail. Il s'est mis en colère. Et il leur a dit, mais c'est pas ça la loi de la Torah. Donc il a obligé à tuer toutes les femmes qui avaient eu un commerce avec des hommes. Et de même, et tous les hommes et tout le bétail. Bon, alors, il y a cette grande discussion, exactement. Il y avait des Bnei Israël qui n'étaient pas très d'accord de faire tout ça, etc. Bon. On voit que c'était problématique, ça. Il y avait des problèmes. Et comment on fait cette chose-là, et dans Sifri, on dit que Pinchas a répondu à Moshe Rabbeinu, on a fait comme tu nous as ordonné. Le Rabban, il dit, je ne sais pas à quoi ça se rapporte, cette histoire. Mais à d'autres endroits, on dit dans Sefer Dvarim que Pinchas aurait dit à Moshe, tu ne nous as pas parlé des femmes de Midian. Et on fait très bien que, on voit très bien que quand on fait la guerre, il y a des règles où justement on ne tue pas les femmes, etc. Donc, puisque tu ne nous l'as pas dit explicitement. Donc ici, il faut expliquer pourquoi dans ce cas-là, parce que c'est une vengeance d'Hachem, etc., on n'applique pas les règles classiques de la guerre, où quand on fait le siège d'une ville, on doit d'abord leur proposer de se rendre, et puis ensuite, s'ils veulent vraiment faire la guerre, alors on tuera les hommes, on ne tuera pas les femmes, etc. Et là, on a tenu compte de rien, et Moshe Rabbeinu voulait qu'on tue tout le monde, en fait. C'est cette histoire de la vengeance, en fait. Là, en même temps, ils ont profité pour tuer Bilam, qui n'est pas une grande perte pour l'humanité, probablement, d'après ce qu'on en sait. Alors, je vais passer au chapitre 32, la sixième montée, donc. Mitne Rav aya livne Ruven livne Gad, atzum meod. Vayiru et Eretz Yazer, et Eretz Gilad, vine amakom mekom mikne. Donc, d'abord, les Bnei Reuven et les Bnei Gad ont d'énormes troupeaux. Et quand les Bnei Israël avancent et ils passent par des terres qui sont des terres à pâturage, alors le Passouk dit Bnei Gad et Bnei Rouven vont chez Moshe, et il y avait aussi Elazar Akohen à ce moment-là, puisque c'était ces deux-là qui avaient présidé à la répartition des terres. Ils viennent vers tous les princes et ils disent cette terre. Alors regardez le texte. Ares asher hika Hashem lifnei adat Israël. La terre qu'Hashem a frappée devant la communauté d'Israël, Eretz Mikne, hi, ve la Vadecha Mikne. Donc, la terre est une terre. La terre qu'Hashem a donnée au d'Israël, c'est une terre à troupeau, en fait, littéralement. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Donc, c'est présenté comme si la terre demandait des troupeaux. La terre, elle est une terre à troupeaux. Donc, normalement, il faut bien tenir compte de la, c'est pas de la volonté, mais de la spécificité de cette terre. Et du coup, il faut y placer des gens qui ont des troupeaux. A priori, ici, les Bnei Gad et les Bnei Rouven, après avoir fait cette déclaration que la terre est une terre qui demande pratiquement des troupeaux, que eux ont des troupeaux, Vayomru, et ils disent à Moshe, en fait, parce qu'il parle au singulier, Imatzanu chen beinecha, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Yutan et haaretz hazot la'avadecha, que cette terre soit donnée à tes serviteurs, la chouza, al ta'avireinu et hayarden, ne nous fais pas passer le Jourdain. Donc vous voyez bien comment la terre, comment est la configuration. Ils arrivent et il va falloir passer le Jourdain. Et avant de passer le Jourdain, ils passent par un territoire de pâturage, une terre à troupeaux, et ils disent ne nous oblige pas, ne nous fais pas passer le Jourdain, installe-nous de ce côté-là du Jourdain. C'est ce qu'ils demandent. A priori, quand on entend ça, on ne comprend pas. Bon, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais c'est incompréhensible. Ça veut dire quoi? Leur bien matériel, c'est la chose la plus importante. On n'est pas sorti d'Égypte pour avoir des biens matériels. On n'a pas reçu la Torah pour devenir avoir des ranchs et des grands propriétaires terriens et des gros troupeaux, etc. Et puis maintenant, le problème, c'est qu'ils veulent rester en Chutz La'aretz, ça veut dire. Alta Virenu Tayarden, ça veut dire, laisse-nous en Chutz La'aretz. Alors, dès qu'on entend laisse-nous en Chutz La'aretz, on fait le lien avec quoi? Quand vous entendez ça, à quoi vous pensez? Oui?
À l'exil?
Hein? Non, avant.
C'est la en Égypte.
Les
En Égypte,
Non, pas retourner en Égypte. Ils veulent pas retourner en Égypte, ils veulent s'installer là. Non, mais ça, c'est pas le... À quoi ça fait penser? Ça fait penser aux explorateurs. Ceux qui veulent pas entrer en Eretz. Après, qu'est-ce qu'on fait si on n'entre pas? Est-ce qu'on s'installe de ce côté-là de la frontière? Ou est-ce qu'on retourne en Égypte? Ça, c'est déjà des options. Mais il y a déjà l'idée de force, c'est on ne va pas entrer en Eretz Israël. Il y a un Midrash Rabba qui dit שלא הייתה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא, אלא חוטפין אותה להם. Donc, quelque part, ils ne sont pas dans la position de ceux auxquels on aurait donné cette terre, mais ils veulent la prendre. Chotfim, ça veut dire. Chotfim, c'est même une idée de... On va l'attraper, quoi. De ceux qui ne voudraient peut-être pas nous la donner. Le fichach, galotrila, pour cette raison, quand les Bnei Israël sont partis en galout, ce sont ces deux tribus et demi là qui vont être exilés en premier. C'est marqué dans Divrei Hayamim, c'est marqué que on a Vaygalem le Reuveni ve la Gadi ve le Chatzi Shevet Menashe. Mi garam lahem. Pourquoi est-ce que eux, ces trois, enfin deux et demi tribus, ont été exilés en premier quand il y a eu exil? Ashe ifrishu atzmam minachem. Parce qu'ils se sont séparés de leurs frères, bishvil kinyanam, pour leur bien matériel. Bon alors, ça va faire scandale, les choses vont s'arranger parce que ils vont promettre à Moshe Rabbeinu qu'effectivement, ils installent ici le troupeau et la famille, quoi, mais ensuite, eux, ils ne s'installent pas là, ils viennent tout de suite faire la guerre avec les autres. Oui, non, on va y revenir. On va revenir à ça. Bon, voilà. Alors, Rashi dit, les Chachamim, donc, c'est les Rashi cite les Chachamim ici, Chassim ayu al mamonam. Ça veut dire qu'ils étaient très à cheval sur leur argent. Yoter mibneem unotehem. Ils avaient plus de soucis quant à leurs biens matériels que de soucis pour leurs fils et leurs filles. Parce que dans l'accord qu'ils ont proposé, ils ont dit Gidrotson nivne le mikneinu po. On va construire des enclos pour nos troupeaux. Veharim, et on va construire des villes le tapeinu. Et ensuite seulement ils disent on va construire des villes pour nos enfants. Donc d'abord les troupeaux et après les enfants. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit non, le contraire. Fais d'abord l'essentiel, et après ce qui est à faire, le secondaire. Banu lachem, construisez d'abord des villes pour vos enfants, et ensuite des enclos pour vos troupeaux. Alors, c'est un peu difficile. Alors, ces gens-là, c'est quand même des gens qui sont sortis, enfin, qui ont reçu la Torah, même si c'est la deuxième génération, peu importe, mais c'est tellement grossier cette histoire. C'est difficile de voir dans la démarche dans leur démarche ici les choses de façon aussi grossière qu'elles en ont l'air. Parce que là, c'est exagéré. Finalement, maintenant, on va dire non, mais leur troupeau, c'est plus important que leurs enfants. C'est gros quand même. C'est largement grossier, quoi. Et donc, en fait, il faut essayer de comprendre un petit peu à quoi ils pensaient et de quoi ils retournent en réalité. Ici, donc, le texte, il est absolument univoque, c'est de grossiers personnages, quoi, finalement. Quand on regarde les brachot que Moshe Rabbeinu a donné, il écrit sur Gad, qui est une des tribus, donc. Alors, on explique que Vayar Rishitlo, ça veut dire Gad a vu qu'il voulait prendre sa part dans le pays. C'est le pays de Sihon et de Og, là, qui est ce pays de pâturage. Parce que c'est ça le début de la conquête. À partir de ce moment-là, on est dans la phase de conquête de Eretz Israël. Et pourquoi est-ce qu'il voulait cette partie? Kisham Chelkak Mechokek Safoun. Pourquoi? Parce que là-bas, dans sur ce territoire de Gad, Moshe Rabbeinu, a priori, la tombe de Moshe Rabbeinu est là-bas. On ne sait pas où elle est, mais elle est sur le territoire de Gad. Le Mechokek, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est le législateur. Qui yada asher sham benachlato. Donc là-bas, Kvurat Moshe, c'est le champ, enfin, l'endroit où Moshe Rabbeinu est enterré, est là-bas. Et là, tout à coup, la raison pour laquelle Gad veut ce territoire, tout à coup, c'est autre chose. À la limite, c'est pourquoi ? C'est pour être proche de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui les a guidés, qui les a amenés jusque-là, eux ils veulent pas, si lui passe, lui n'y va pas, je n'y vais pas non plus. Moshe Rabbeinu ne passe pas le Jourdain, nous non plus on ne veut pas passer. Bon, c'est une Kabbalah, il savait. Comment il peut y avoir en même temps chez quelqu'un deux démarches aussi distinctes? Parce que c'est pas parce que Moshe Rabbeinu nous dit que une des raisons que lui s'est rendu compte. On sait qu'une des raisons profondes pour lesquelles Gad voulait rester de ce côté-là, bon, c'est une raison plutôt spirituelle, mais en même temps, il y a ce qu'ils ont demandé. On a des troupeaux, on veut la terre, elle demande des troupeaux, et on a les troupeaux, et donc laisse-nous, ne nous fais pas passer le Jourdain. On trouve, en vérité, cette histoire de donner de l'importance au bien matériel, alors qu'en même temps, on a une pensée suffisamment élevée, comme celle dont parle Moshe dans sa bracha, hein. On trouve que chez les tzadikim, qu'ils sont aussi à cheval sur la préservation de leurs biens. Avraham Avinu, quand il revient d'Égypte, après avoir mis sa femme en danger, etc., le pasouk dit « Kaved meod bemikne ba kesef ou bazarav ». Et on dit là-bas qu'il marchait très lentement parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de troupeaux, etc. Alors qu'il a reçu l'ordre d'Hachem de retourner en Eretz Israël. D'ordinaire, on décrit toujours les tzadikim, mais en particulier Avraham Avinu, on dit que quand on décrit la façon dont il a reçu les Arabes qui étaient les Malachim, bon, on dit qu'il a tout fait au pas de course. Pourquoi? Parce que, voilà. Et là maintenant, Hachem lui dit, rentre en Eretz Israël, et monsieur, il y va tranquille, parce que, bon, on ne peut pas bousculer les troupeaux. Yaakov Avinu, quand il revient de chez Laban, il a mis 2 ans pour rentrer chez lui. Et en plus, on décrit la fameuse histoire du passage du Yabok, là-bas, où il fait passer tous ses enfants, toute la famille, tous les biens, et qu'est-ce qu'il revient en arrière pour quelques raviers. Bon, il faut bien faire les salades de vendredi soir, donc il faut bien un peu de raviers, mais ça veut dire que ça vaut la peine. Il est extrêmement riche. Qu'est-ce que ça fait s'il a oublié quelques raviers? Il est un vieillard. Néanmoins, il se fatigue, il se met en danger en réalité. Et alors, non seulement on nous dit ça, mais en plus c'est devenu une halakha. Chazal disent que Mikana Tzadikim, Shechaviv Aleim, Mamonam Yoter, Mi. Tichad Goufam, d'après certains. De là, on apprend que pour les tzadikim, leur bien, leur argent, vaut plus que, ou bien leur corps, donc le risque, ou bien, il y a une version avec Tichad Goufam, c'est-à-dire la fatigue de leur corps. Et pourquoi? Alors du coup, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement, mais voilà, la grande idée, c'est de la même manière qu'on a dit qu'il y avait l'épaturage et aussi la grande idée du tombeau de Moshe Rabbeinu, enfin là où est la tombe de Moshe Rabbeinu, ici chez Yaakov Rabbeinu, il y a aussi les raviers là, qu'il faut aller chercher, je pense très matériel, mais en même temps on dit pourquoi chez En Poshtim Yedem Begezel, parce que les tzadikim ils touchent pas au vol. Il faut faire très attention de ne pas voler. Et là ça a l'air d'être ça le secret de toute cette affaire. Ramasser les biens, amasser les biens, c'est, pour les amasser, c'est sûrement pas le chemin de ceux qui veulent servir Hachem. Mais au contraire, quand on a beaucoup une abondance de biens et qu'on les met au service de la Kdusha, alors c'est une grande chose. C'est une bracha, en fait. La Gemara, effectivement, elle dit cela. Elle dit, Darish Rav Hanina, leur papa a enseigné, Oto Malach Amemune Alehrayon, l'ange qui est en charge des conceptions, Notel Tipa, Ma'amida Bifnei HaKadosh Baruch Hu Ve'omer Lefanav, il prend une goutte de semence, il la présente devant Hachem et il dit, cette gousse de semence, Matei, Aléa, qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor, au Khalash, un fort ou un faible, Chacham, au Tipesh, Ani, au Rachir, pauvre ou riche. Ça veut dire que dès le départ, quand on fixe effectivement les déterminations principales, ou quasi totales, de l'être humain, il y a la pauvreté ou la richesse. La chokhma, la gvura, ça on comprend bien, parce que c'est nécessaire pour le service d'Hachem. L'argent aussi. Mais aussi, il doit être utilisé comme un moyen de servir Hachem. Et chaque centime que l'homme acquiert, quand il l'a acquis de façon complètement cachère, alors ça fait partie des kélim, les ustensiles avec lesquels on sert Hachem. Ça veut dire que chacun de ces centimes a une fonction. Et on n'a pas le droit de le gaspiller, cela. Donc celui qui est riche, il n'a pas le droit de négliger ce fait qu'il est riche. Il doit considérer que la Hashgacha lui a donné ses moyens. Donc si quelqu'un est capable de devenir riche, ben, il faut qu'il utilise cette capacité. Mais maintenant, si quelqu'un, s'il lui arrive de l'argent, c'est-à-dire, là aussi, il faut qu'il se dise, j'ai cet argent, c'est pas pour rien que cet argent est arrivé chez moi. Les Bnei Gad et les Bnei Rouven, c'est vrai qu'ils étaient trop attachés, visiblement, à leurs biens matériels. Mais ce n'était pas pour amasser de l'argent, pas pour emmagasiner des biens, etc. Mais ils pensaient que puisqu'Akadosh Baruch Hu leur a donné des troupeaux, à eux plus qu'aux autres, alors il leur incombe de développer cela. Parce que si à ce moment-là ils le prennent sur ce ton-là, en quelque sorte, alors ils sont en train de travailler les Melechet Shamay, ils travaillent pour le ciel. Pour eux, c'était un signe que c'est là-dessus qu'ils devaient travailler. C'est dans ce domaine qu'ils devaient travailler. C'est une règle générale. Ça veut dire qu'il y a toujours cette idée que l'herbe est plus verte ailleurs. Et souvent, le Yetzirah, il nous souffle. Ah, il faut que tu travailles là-dessus, etc. Et c'est pas là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas qu'il faut pas travailler là-dessus, mais c'est pas ça l'essentiel. Et pour le Yetzer Hara, c'est une victoire. Parce que même si on a travaillé sur une mida et qu'on l'a améliorée, mais ce n'était pas celle-là qu'on devait améliorer, on n'a pas fait son, on n'a pas fait son job, quoi. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On entend ici à Aretz, le verset que je vous ai fait remarquer, qui a l'air de faire comme si c'est la terre qui demande. Aretz Asherika Hashem Lifnei Adat Israël. La terre qu'Hashem a frappée pour la donner à Adat Israël. C'est une terre de troupeaux. Et tes serviteurs, il parle de à Moshe Rabbeinu, tes serviteurs ont des troupeaux. C'est comme si la terre demande à jouer son rôle. Et nous aussi, on demande à jouer le nôtre. Donc, à ce moment-là, ils ont espéré que Moshe Rabbeinu allait faire le chidour. Il y a une terre qui demande des troupeaux, et nous, on a des troupeaux. Et comme Moshe Rabbeinu n'a pas l'air d'entendre ce qu'ils disent, il n'est pas parti pour faire le chidour. On va expliciter la chose. Si on a trouvé grâce à tes yeux, alors voilà, donne-nous cette terre. Ça veut dire, a priori, on peut dire qu'ils veulent bien faire. Ils veulent faire ce qu'Hachem, ce qu'ils pensent qu'Hachem veut d'eux. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle dans le langage du moussard une neguia. Il y a un point où ça touche quelque chose de un problème chez eux, en fait. Finalement, il y a un point, c'est que, ok, si ce territoire-là était un territoire en Eretz Israël, il n'y aurait rien à dire. Le problème ici, c'est que ce qu'ils demandent ici, avec toutes sortes de bonnes raisons et tout ce qu'on veut, mais ça veut dire on n'entre pas en Eretz Israël. Et là, je redis ce que je vous ai déjà dit souvent, c'est quand même vrai, c'est que tout est chamboulé avec ça. Imaginez-vous la terre d'Israël, ce côté du Jourdain, entre le Jourdain et la mer, partagée en 12. Évidemment, le partage, puisque c'est Hachem qui a... Si la terre n'est pas la même, si on est dans la plaine, ou si on est dans les collines, ou si on... etc., ou si on est en bord de mer, etc. Donc la terre, la portion de terre qui est attribuée à chaque tribu, c'est la portion de terre qui va permettre à cette tribu de s'épanouir. Un peu comme chez eux, cette portion de terre, cette terre qui demande des troupeaux, alors qu'eux ont des troupeaux, ben c'est un chidour formidable. Sauf que le leur de chidour, il n'est pas sur la terre d'Israël. Mais si eux n'entrent pas, deux tribus et demie qui n'entrent pas, ça veut dire qu'on va partager Eretz Israël en 9,5, pas en 12. Du coup, aucune tribu ne sera à sa place. Parce que ça va se partager autrement. Donc ce qu'il demande, c'est pas seulement qu'eux ne seront pas sur la terre d'Israël, mais c'est que, à cause d'eux, Eretz Israël n'est pas à sa place. Le puzzle, en fait, d'Eretz Israël, il n'est pas découpé de la bonne manière. On n'a pas donné à chaque tribu les moyens de donner tout ce que cette tribu peut faire, parce qu'elle n'est pas à l'endroit où la terre va pouvoir l'aider complètement.
Et cette terre, elle appartenait à qui? S'ils n'ont pas franchi le Jourdain, alors d'abord...
C'est la terre de Og et de Sichon.
Donc ils ont fait la guerre à Og et Sichon?
Tout le monde a fait la guerre, et ces territoires, ils ont été conquis. Donc ils arrivent, mais il y a eu une guerre qui est... Ça, c'est la mer, ici, et le Jourdain. Bon, pour vous, c'est à l'envers. Et on arrive ici, eux ils arrivent, là il y a l'espèce des pâturages en question, qui sont de ce côté-là du Jourdain. Eretz Israël, c'est ce côté-là.
Donc ça n'est pas agrandir le territoire d'Eretz Israël?
Ça va agrandir le territoire de... je ne vais pas dire la Médina d'Israël, mais ça va agrandir le territoire des Juifs, quoi. Mais... Eretz Israël, c'est seulement Eretz Israël. Et alors, ça a des conséquences énormes. Parce que, évidemment, la frontière, le Jourdain, frontière entre les Goïm et les Bnei Israël, c'était gardé d'une certaine manière. Mais la frontière, le Jourdain, la partie du Jourdain entre Gad, Reuven et Hatsi Menaché et les autres, c'est pas une frontière entre étrangers. Donc c'est un truc qu'on peut entrer comme dans du beurre. Si tu entres par chez eux, les ennemis, ils entrent là. Si ça se trouve, il n'y a pas la moindre fortification, si on veut parler en termes de fortification. Puisque c'est au milieu d'un territoire c'est les gens qui sont ensemble. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vous ai lu. En plus, ils ne sont pas vraiment défendus. Donc, c'est les premiers à subir le galop. Donc, même pour eux, c'était pas bon de ce point de vue-là.
Est-ce qu'ils savaient que Israël ne suffirait pas pour leur
côté? Non, ils ne savaient rien. Personne ne connaissait la...
Ils ont supposé que c'était un chidour favorable pour leur troupeau sans envisager que...
Non, je pense que ils ont vu un chidour favorable. Seulement, ce qu'ils n'ont pas... La Neguia, c'est que c'était tellement favorable qu'on n'a pas regardé. Oui, mais ça implique qu'on n'entre pas en Eretz Israël. Enlevez tout ce que je vous ai dit. Parce que dans ma tête, si vous voulez, tout ce déséquilibre, ça veut dire que les Bnei Israël, ils n'ont jamais habité en Eretz Israël. On n'a jamais habité. Et donc, à la limite, quand on a construit le Beth Amikdash, etc., on n'a jamais construit le Beth Amikdash qu'il fallait. On n'était pas sur notre terre. On n'était pas au bon endroit. Et si l'endroit, il doit être... Moi, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi on a gardé la structure tribale. Mais en termes de diversité, etc., on comprend très bien que c'était important. C'est ça le clan d'Israël. En plus, si le clan d'Israël n'a pas ses structures tribales, on ne voit pas bien comment il pourrait répondre au Shivim ou au Taolam. Il fallait déjà qu'il y ait ces 12 tribus, etc., à l'intérieur, 12 peuples en quelque sorte. C'est bien ce que les fils de Yaakov ont dit à Yaakov. On est 12 peuples. Tu croyais y avoir un seul peuple? Ne fais pas de souci. On est 12 peuples, mais on est unis parce que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est tout. Pour le reste, on est des peuples différents. Mais ces peuples différents, ils vont former le peuple d'Israël. Mais du coup, tout ce qu'on a fait en Eretz Israël, on l'a fait sans avoir tout ce qu'Eretz Israël pouvait nous donner. Donc on n'a jamais été dans la bonne situation. Donc c'est impensable quand on réfléchit. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est comment Hachem a accepté. Parce que finalement, ils vont accepter. Ok, mon cher ami l'accepte, mais c'est parce que Hachem a accepté.
C'est parce que la terre a pu développer un potentiel à elle aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est implanté aussi sur une terre, qu'on la nourrit, cette terre, elle, comme. Elle,
mais c'est un rapport dans les deux sens. On va nourrir la terre. Mais d'abord, on ne sait peut-être pas comment il faut la nourrir dans les endroits où c'est la tribu. Ça, c'était le territoire de Naphtali. Et au lieu que ce soit Naphtali, c'est Asher qui est là. Ben Asher, il va faire les choses du mieux qu'il sait faire, ça ne sera jamais ce que Naphtali sait faire. Donc on n'aura pas nourri cette terre de la nourriture naphtalienne qu'il faudrait lui donner. Et elle ne nous a pas donné à Asher ce qu'elle aurait pu lui donner, selon qu'il avait besoin, puisqu'elle était naphtalienne, cette terre.